On commence à organiser, là, on a un partenariat avec le live bar dans l'Accor Arena, on fait des after parties, tu vois. Et en fait, je me dis, tout ça, j'aurais pas pu le faire si je m'étais pas investi. Tout ce qu'il me fallait, c'était du temps.
Et du caractère.
Du caractère. Mais ça, pour le faire comprendre à tes parents, tu leur dis, je vais tout arrêter et je vais faire que ça. Fais-leur comprendre.
Oyez la popu, bienvenue sur Artisans d'Esprit, le podcast qui met en avant les personnes de banlieue qui font tout pour s'accomplir. Comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours. Ici, tu trouveras des invités sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens. Écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans de l'Esprit. Quand je te dis que ta capacité à t'adapter dans n'importe quel environnement peut te sauver la vie, c'est réel. La force d'Iman, c'est qu'elle a vite compris qu'elle devait se mettre dans les meilleures dispositions pour sortir de son environnement. Endurance, force et vigueur, c'est ce qui me vient à l'esprit lorsque j'échange avec elle. Je te présente Iman aka Cher Smokes, fondatrice de Legacy Lead Event. Pour les nostalgiques qui kiffent les soirées à thème sur leurs artistes préférés, je te souhaite une bonne écoute, un max de partage, 5 étoiles sur Apple Podcast, ce serait magnifique. Et on se dit à tout à l'heure.
Est-ce que je peux faire plaisir? Non, je rigole.
Vu qu'il fait un peu,
je suis blessée. Non, ça me répugne. Ça me répugne.
Ok. Bon, Iman, bienvenue dans le podcast. Bienvenue chez Artisans de l'Esprit.
Merci.
Eh ben, avec plaisir. Tu connais la première question?
Mais je te laisse la poser.
Ouais.
Vas-y.
Sans tricher.
Ok.
Si tu devais écouter ton cœur, là.
Ouais.
Comment il va?
Momenté, ça va.
Ok.
Momenté, ça va. Bien, là.
Bien.
Pas bien, mais bien, là.
Ok. C'est le chocolat chaud qui fait l'effet?
Ouais. Il a réchauffé mon cœur.
Super, ok. Deuxième question pour toi. Est-ce que tu peux raconter ta jeunesse, mais à travers ton quartier?
Ma jeunesse à travers mon quartier. En fait, moi, j'ai déménagé 3 fois entre, bah, on va dire, ma naissance et mes 9 ans. Je suis née à Bondy. Mais c'est compliqué dans le sens où j'ai pas de souvenirs avant mes 6 ans.
C'est pas grave.
J'en ai aucun, mais les premiers souvenirs que j'ai, c'est vraiment quand je suis passée de Drancy à Creil. Je suis partie vivre à Creil pendant 3 ans, donc de mes 6 à mes 9 ans. Et là, je dois te parler de Creil, du coup, plus particulièrement.
Mais là, ça me surprend, là, t'es une meuf du 60.
Non, je suis pas une meuf du 60 parce que mes parents avaient donc la maison dans le 93 à Drancy. Et mon père est boucher. Et il avait ouvert une boucherie à Creil, donc on est parti avec lui. On est parti vivre dans 60 pendant 3 ans, et après on est rentré à Drancy. Et depuis mes 9 ans, du coup, je suis tout le temps restée à Drancy. Juste, je suis née à Bondy, on avait une première maison sur Drancy, puis on est reparti dans la maison principale. Et Creil, ce que je vois aujourd'hui de Creil, c'est pas le Creil que moi j'ai vécu.
Raconte.
Parce que c'est toute mon enfance. J'avais ma meilleure amie, on me prenait pour des jumelles. C'était trop bien en fait, surtout des 6 ou 9 ans. Et je trouve que c'était le moment parfait pour revenir à Drancy. Mmh. À Drancy où en fait j'ai tout construit. J'ai tout construit. J'étais pas une fille qui traînait vraiment dans Drancy. J'étais pas une fille qui sortait beaucoup, tout simplement. Tu vois, j'avais mon école primaire qui était à l'angle de chez moi. Mmh. La maternelle, elle était au bout de la rue. Le collège, il était à gauche. Et le lycée, il était allé à 10 minutes à pied, tu vois. Donc, j'ai fréquenté les mêmes personnes, les mêmes endroits. C'est juste... c'est pour moi, Drancy, c'est tout... Drancy, Bobigny, Blanc-Ménil, Le Bourget, tout ça, c'est... Tout est ensemble, en fait, tu
D'accord.
vois. Et on a grandi vraiment avec toutes les mêmes personnes et tout. Et franchement, t'as beaucoup de gens qui me disent... Est-ce que t'aimerais changer de lieu, etc. Et je réponds toujours non. J'aime trop là où je suis. Et je pense que j'ai trop d'attache au, on va dire, soit aux souvenirs, soit aux gens que j'ai fréquentés, soit à mes habitudes peut-être.
Ouais.
Et non, si je dois décrire mon enfance sur le quartier en lui-même, je dirais, habitude et sérénité. Okay. Sur là où je me suis retrouvée, en tout cas là où j'ai vécu et là où j'ai grandi.
Pourquoi habitude et sérénité aussi?
Parce que pour moi, c'est une sorte de safe place, dans le sens où je connais les gens, je connais les endroits, et je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, mais je serais pas capable de partir 1 an, 2 ans, 3 ans sans jamais revenir ici. Mmh. Tu vois, je sais que en gros, mon pied à terre, il est à Drancy. Tu
D'accord.
vois, mon pied à terre, il est à Drancy, et je parle pas forcément de la vie de famille, la vie avec les amis, etc. Mais c'est vraiment, tu vois, il y a rien qui est comme la maison, et pour moi, la maison, c'est là en fait.
Mmh. Est-ce que t'as une anecdote ou quelque chose qui t'a construit durant ta jeunesse?
Là, on passe sur la partie la moins sympa. Je pense que ce qui m'a construit, et ça doit être le cas de beaucoup, c'est le foyer dans lequel j'ai grandi. Mmh. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a fait évoluer sur beaucoup de points. J'ai dû prendre en maturité relativement tôt. J'ai pas grandi dans le foyer le plus joyeux du monde. Mais c'est vraiment ce qui m'a construit, ce qui m'a permis d'évoluer, qui m'a vraiment impacté dans ma vie et où j'ai appris chaque étape de la vie. Même si je ne le voulais pas forcément, tu vois. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment le foyer en lui-même.
D'accord. Donc, tu grandis beaucoup plus vite que prévu.
Ouais.
Et
je suis la seule fille. On n'est que deux. J'ai un grand frère, mais on a 1 an moins 9 jours de différence. On a grandi comme des jumeaux. Surtout que lui, il a retapé sa seconde. Donc, quand je suis arrivée en seconde, on était en même temps. On a fait croire à tout le monde qu'on était jumeaux pendant toute la période du lycée. Et ouais, je suis la seule fille, surtout dans un foyer maghrébin, c'est compliqué quand t'as un grand frère. Pas dans le sens où mon grand frère, c'était le cliché type, pas du tout, au contraire. Mais il avait le droit à certaines choses que moi, j'avais pas le droit, etc., machin. Donc ouais, t'as pas d'autre choix que de grandir plus vite que prévu, en fait.
Ouais, je vois. Et justement, comment t'étais à l'école?
Ultra studieuse. J'étais grave studieuse et j'aime trop l'école.
C'était quoi tes matières préférées?
Alors, étonnamment, j'ai fait L, mais j'aimais trop les maths.
Ok.
J'aimais les maths, le théâtre et histoire-géo, j'aimais beaucoup aussi. Et j'aimais beaucoup la physique-chimie aussi, mais au collège. Franchement, j'avais pas de... Je sais pas, c'est assez... aléatoire, je pense, ça dépendait beaucoup des professeurs et de la méthode d'apprentissage parce que bah, j'étais studieuse, j'aimais l'école, etc. Donc, j'allais avoir moins d'attache avec certaines matières, certaines années en fonction des professeurs. Mais sinon, en général, j'aimais les maths parce que c'est que des exercices de logique, en fait. Et j'aime trop la logique.
De toute façon, les maths, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas.
Ouais. En fait, c'est même pas que ça. C'est que même, je pense que t'aimes pas si t'as pas de logique. Parce que c'est un exercice mental trop compliqué, tu vois. Ouais. Et j'étais face à des amis qui... Je leur dis, mais c'est logique, c'est logique. Et mais je comprends pas. Là, je me dis, mais en fait, tu peux pas l'imposer à quelqu'un. L'histoire géo, parce qu'en fait, bah c'est que de... T'apprends, en fait. T'apprends tout le temps. La philo, c'était cool aussi. La philo, c'était cool, mais malheureusement, j'ai pas eu une prof qui était relativement présente, donc j'en ai pas fait assez. Et le théâtre, j'aimais trop, parce que j'ai toujours été dans tout ce qui est art, etc. Donc, je m'étais même rajouté un supplément théâtre, tu vois.
Ouais.
Donc, ouais, théâtre.
Donc, c'est à ce moment-là où tu rentres dans le théâtre, j'imagine?
Non, je suis rentrée avant.
Comment?
J'ai fait du conservatoire.
Ok.
Je suis rentrée au conservatoire à 5 ans et demi.
5 ans et demi?
Ouais.
Donc ça, c'est les parents qui t'ont...
Ouais, quand j'étais à Creil. Avant mes 6 ans, parce que tu rentres en septembre et je suis née en novembre.
Ouais.
Donc, ils m'ont inscrit au piano à 5 ans et demi. Et en fait, sur les premières années, t'es obligé de faire chorale. Donc, t'es obligé d'avoir soit la chorale, soit la danse. Mmh. Et autre chose, tu vois. Donc, moi, les premières années, j'avais que la chorale. Et quand je suis arrivée à Drancy, j'ai rajouté le théâtre. Mmh. Donc, en fait, quand j'ai été au lycée, j'avais déjà 8 ans de théâtre derrière moi.
Enfin, OK.
J'avais déjà 8 ans de théâtre derrière moi.
D'accord. Donc, comment tu te construis grâce au théâtre? Parce que c'est pas quelque chose que tu fais naturellement quand tu viens d'un quartier. Même
ouais.
si ça peut sembler
ouais,
cliché,
ouais.
c'est réel, tu vois. C'est pas la première chose. Pour les garçons, s'inscrire au foot, peut-être un peu au sport de combat.
Mm.
Et encore peut-être pas aussi jeune.
Non, mon frère, c'est du karaté.
Voilà, moi, c'était le judo.
Ouais.
Et j'ai footé judo et à aucun moment, je me dis, je peux faire du théâtre. Ou même mes parents, à aucun moment ils se disent ça.
Alors moi, j'ai été beaucoup guidée par ma prof de piano, qui était cœur sur elle, j'aime trop. Genre, elle m'a tellement appris sur tellement de choses, mais j'ai beaucoup été guidée par ma prof de piano qui, elle, m'a proposé le théâtre. J'ai dit, voilà, je vais arrêter la chorale, ça m'intéresse pas, le chant, c'est pas quelque chose qui me parle. À l'époque, j'étais très réservée, j'étais très introvertie, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Je suis très extravertie, j'ai pas de soucis avec la prise de parole et tout. Et en fait, inconsciemment, quand t'es au lycée ou quand t'es avec... tu crées des groupes. Ça veut dire que même si on vient de certains quartiers, etc., on avait ce groupe de, on va dire, d'artistes, tu vois.
D'accord.
J'ai aujourd'hui mes meilleures amies, il y en a une qui est styliste visual merch et l'autre, il est devenu acteur. Et on faisait du théâtre ensemble, tu vois. Et on avait construit en fait ce petit groupe où au lycée, on s'est dit, venons, on fait théâtre et tout. Il y a une petite anecdote parce que de base, moi, j'étais en filière S. J'avais pas le choix, comme tu dis, tu vois, on venait des quartiers et tout, je me suis battue, j'ai changé de filière, j'étais en L pour rejoindre mes amis pour qu'on fasse du théâtre ensemble parce que c'était ouvert que à la filière littéraire. Mmh. Et donc j'ai commencé le théâtre, mais c'est vrai que j'en parlais pas, on va dire, aux gens quand j'en faisais, tu vois. Je faisais mes cours et tout, mais c'était pas un truc qui me... Je faisais mon petit cours de piano, je faisais mon cours de théâtre, je faisais mon cours de solfège, etc. C'était mon activité et tout machin.
Solfège aussi.
C'est obligatoire quand tu fais du piano. J'avais une demi-heure de piano pour une heure et demie de solfège. C'était infernal. Après, quand ils ont rajouté la compo, j'ai dit, bon, les gars, ce sera sans moi. Mmh. J'ai passé assez d'années au conservatoire. Ça suffit. Mais ouais, il y avait le solfège et tout. Et en fait, bah, quand j'allais au conservatoire, je revoyais des gens de mon lycée, de mon collège. Tu vois, et donc inconsciemment, ce groupe-là, il se crée et on y va ensemble. Après les cours, on y va ensemble, on se donne rendez-vous. Machin vient s'entraîner chez moi, moi je vais m'entraîner chez lui. Donc ouais, ça s'est créé comme ça et ça a créé un beau groupe où au final, je suis contente de m'être intégrée dans ce groupe parce que je me dis, quand tu viens des quartiers, c'est trop facile de vriller, tu vois.
Ouais.
C'est trop trop facile de vriller. Moi j'avais un papa difficile, strict, donc c'est... Je suis contente d'avoir trouvé cette voie-là à ce moment-là.
Tout à l'heure, tu as dit, je ne le disais pas quand j'allais au conservatoire, quand je faisais du piano, etc. Pourquoi ?
Parce que ça ne me semblait même pas important. Tu vois, ce n'était pas une honte ou quoi, c'est juste, c'était mon truc.
Ok.
Tu vois, c'était mon truc. Et quand j'ai commencé le piano, j'étais du coup à Creil, comme je t'expliquais, et je n'avais pas de piano à la maison. Et quand tu fais du piano, tu es obligé d'avoir ton propre piano parce que bah, quand tu vas au conservatoire, tu n'as pas forcément de place, etc. Les salles sont occupées. Et en fait, la fleuriste qui était en bas de chez moi, elle avait un piano. Elle s'appelait Michelle. Récemment, j'ai retrouvé sur Twitter. C'est un truc de fou. Et elle me passait son piano. Et tous les jours, j'étais dans sa boutique et je m'entraînais et tout, tu vois. Et bah, quand je suis arrivée à Drancy, j'ai gardé cette solitude vis-à-vis de mon art. Pour moi, c'est un truc hyper personnel.
Ouais.
Et c'était pour moi. Et j'avais pas besoin de dire, ouais, bon, je vais au piano, je vais faire ci et tout. Enfin, mes amis le savaient et tout. Si on en discutait, on en discutait. Mais c'était pas un sujet de discussion à proprement parler.
D'accord. Tu pratiquais, tu kiffais. Et puis
c'est
après,
ça.
Ok, intéressant. Donc, tu commences le théâtre très jeune.
Ouais.
Suivi de la musique. Alors, il y a quoi d'autre dans ta bio déjà? Il y a l'art, donc au sens très large du terme. Il y a le théâtre, il y a le piano. Il y a la chorale aussi.
J'ai fait de la chorale, j'ai chanté et j'avais des super bonnes notes. Là, je suis retombée récemment, j'ai dans mes archives, j'ai posté et tout. J'avais été 19 sur 20 en chant et aujourd'hui, quand je m'entends, je me dis, mais ils étaient sourds. C'est pas possible, ils étaient sourds. Mais en piano-chant, alors pour ma défense, pour ceux qui écoutent, en piano-chant, c'est pas du tout la même chose que quand tu chantes seul. Quand t'as un accompagnement en piano, en fait, t'es limite obligé de chanter juste. Mais chanter juste ne veut pas dire bien chanter.
C'est quoi la diff?
Tu peux avoir un timbre assez exceptionnel qui fait de toi un chanteur, tu vois, comme par exemple Rihanna, etc. T'as des chanteurs, je crois que c'est Charles Aznavour, qui chantait ultra faux.
Ouais.
Et pourtant, ça fait d'eux des bons chanteurs, entre guillemets, c'est des artistes. Mais chanter juste, pour moi, tout le monde peut le faire. À partir du moment où tu te bases sur des notes, etc., et que tu suis les notes et tu suis le piano-voix, tout le monde peut bien chanter.
Ouais, je vois.
Mais, enfin, tout le monde peut chanter juste, mais après, être un artiste avec la chanson, c'est autre chose.
Okay.
Donc, voilà. Mais ouais, j'ai toujours été dans l'art, entre guillemets. Donc, il y avait le piano, etc. Et après, quand j'ai eu mon propre piano à Drancy, ça a été complètement autre chose. Tu vois, c'était, je faisais que ça. C'était des 3-4 heures de révision chez moi et tout. Et, Et voilà.
À ce moment-là, tu as quand même beaucoup d'activités extrascolaires qui te permettent de voir un autre monde.
Ouais.
De ce qu'on peut voir quand on vit dans un quartier. Est-ce que tu dis, je sais ce que je vais faire plus tard?
Non. J'ai jamais... Alors, après le bac, quand je me suis inscrite en école sup, je savais pas ce que j'allais faire. Et un truc, c'est que, tu vois, j'avais beaucoup d'activités extrascolaires, etc. Et comme tu dis, on vient des quartiers. Il y a des choses qui, aujourd'hui, et à l'époque, ça me choquait pas parce que c'était pas dans nos têtes et tout, mais t'étais grave considéré comme l'arabe, pas comme les autres, tu vois. Mmh. Et ça, c'est un truc qui m'énerve parce que ça signifie que la culture, la musique, etc., la lecture, les visites et tout, c'est pas ouvert aux maghrébins. Et pour quelle raison? Pourquoi ce serait réservé aux blancs? Pourquoi ce serait réservé aux occidentaux? Nous aussi, on peut avoir... Enfin, j'ai envie de te dire, c'est pas comme si les Arabes, ils étaient pas connus pour leur calligraphie, leur artiste, enfin, tout ce qu'ils font en termes artisanal, le chant. Enfin, c'est quelque chose qui nous appartient aussi, tu vois. Et moi, j'acceptais pas que, en gros, soit certaines familles blanches acceptent que leurs enfants me fréquentent, entre guillemets, puisque j'étais pas comme les autres, ou soit des maghrébins qui allaient me rejeter parce que j'étais pas comme eux. Et au final, je pense que tous ces gens-là ont au moins 50% ont changé d'avis aujourd'hui. Mais ouais, j'étais pareil. J'avais ma période à l'époque, 2004-2010, c'était la période One Direction et tout. Tu vois, je suis rentrée dans une phase où vraiment c'était la musique. La musique, l'art. Et ouais, c'est, tu vois, toutes ces activités-là, en fait, elles m'ont permis de me créer ma propre bulle et plus tard évoluer dans ce que je dis, en fait. Quand tu es artiste, tu sais pas ce que tu vas faire. Parce que tu peux être artiste autant dans le champ que être derrière, que, tu vois, tu veux juste participer à la création de quelque chose. Pour moi, c'est juste ça, être artiste. Tu participes à la création de quelque chose où tu crées ta propre chose et tout. Et j'ai testé des tonnes de choses avec ma meilleure amie. On a essayé de lancer une marque de vêtements où on dessine nos propres trucs, tu vois. On a essayé de créer un groupe de musique parce que elle chantait, moi j'étais au piano. Notre pote, il était guitariste, chanteur et il faisait du beatbox. On avait fait des vidéos YouTube. Enfin,
c'était très spontané, ça.
Hyper spontané. Et il n'y a rien, en fait, qui nous disait plus tard, on va faire ça.
Et sans forcément se projeter pour le coup, avec le côté très spontané aussi, est-ce que vous aviez des références? T'as parlé de One Direction, mais plus des références arabes ou arabo-musulmanes?
Moi, à cette époque, non. Ma référence, c'était Alicia Keys.
Ah.
C'était Alicia Keys. Après, mon père, il a beaucoup grandi avec Rouicha. Je sais pas si tu connais. C'est un chanteur marocain, il est décédé. Et... mon père, il avait, tu sais, les petites guitares, enfin, je crois qu'il l'a encore, les petites guitares marocaines avec seulement trois cordes. Ouais. Et à chaque fois que j'allais au Maroc, en fait, j'avais, parce que j'allais au Maroc tous les ans, ça c'était obligatoire. À l'époque, c'était 2 mois, voire 3 mois quand on débordait sur la période scolaire. C'était 3 mois et aujourd'hui, j'ai gardé cette attache où je peux pas ne pas aller au Maroc au moins une fois par an. C'est obligé pour moi. Tu vois, ça reste mon chez-moi, même s'ils aiment bien nous appeler les Zmekri, l'image, c'est ce que tu veux. C'est pas grave. On est des Zmekri ici, on est des Zmekri là-bas. Tu vois, il y a aussi cette part de, tu sais pas réellement où est ta place. Mais, à l'heure actuelle, en fait, je me rends compte que j'écoute beaucoup plus de musique arabe qu'à l'époque. Je suis beaucoup plus attachée à la culture marocaine et orientale et maghrébine qu'à l'époque. Et en fait, je me reconnais pas forcément dans certaines cultures occidentales, mais en fait, on est à 50-50.
Bien sûr.
Je peux pas mentir et dire que je me retrouve à 100% dans la culture au Maroc.
Bah, moi j'aurais plutôt dit on est à 2 fois 100%.
Oui et non, parce que tu sais, il y a des... Je pense qu'on a pris certaines habitudes en France qu'on peut pas avoir forcément au Maroc. Enfin, là, le Maroc a beaucoup évolué, donc c'est quasi pareil.
Et inversement, quand t'as grandi dans la culture marocaine...
Mais oui,
y a des
à Bobigny, ça faisait des photos à la plage en Rostand, tu vois. Donc, au final, je me dis que j'ai pas non plus grandi avec une culture hyper occidentale, mais à l'époque, tu le voyais pas.
Ouais.
Donc, j'avais pas ça comme référence, mais ma référence, en fait, c'était ma famille.
Voilà.
C'était ma famille, donc j'avais pas d'artiste, j'avais pas de... Tu vois, j'ai grandi avec une culture hyper occidentale sur l'aspect artiste, mais hyper maghrébine sur l'aspect famille. C'est-à-dire que j'avais mes tantes, il y avait la musique, il y avait les plats. Enfin, nous, tu vois, la majorité, s'il n'y a pas au moins deux fois par semaine un tagine ou un couscous, c'est pas normal.
Ça
tu
n'a
vois.
Pas de sens.
Ça n'a pas de sens. On est, tu vois, on est chez nous. Ouais. Dès que j'avais des copines blanches, je les invitais à nous regarder manger avec les mains. Pour moi, c'était normal.
Ouais.
Et anecdote que ma mère m'a racontée, moi, je m'en souviens pas parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas de souvenirs avant mes 6 ans. Mes parents m'ont appris le marocain en premier.
D'accord.
Ils m'ont dit, quand tu vas aller à l'école, tu vas apprendre le français. Le marocain, si tu l'apprends pas maintenant, c'est fini. Donc aujourd'hui, je parle couramment le dialecte marocain.
Est-ce que t'allais à l'école arabe?
Ils ont jamais voulu m'inscrire. Okay. Tu sais que c'est fou, ça. Mais ça, c'est mon père. Il était trop bizarre sur ça. Bref. J'ai demandé en plus hein, de faire l'école arabe et tout. Par contre, je me suis inscrite assez tardivement. Mais en fait, l'arabe, c'est une langue tellement difficile que quand j'ai été inscrite à 13 ans, c'était limite impossible pour moi de l'apprendre. J'ai essayé. Mais le dialecte marocain ou même l'écrire avec des 7, des 3, tout ce que tu veux, je te le fais. Et ben, je suis arrivée en maternelle, premier jour. Et en fait, on se met à la cantine. Et là, je tape une crise de larmes. Et je commence à crier « Je veux pas ma techa !» Et je crie « Je veux pas ma techa !» Là, je crie. Et là, je pleure. Et ils sont en train de chercher la seule Algérienne de l'école, de la maternelle. Viens, je crois que ça s'appelait Malika. Je sais plus, Malika ou Nadia. Viens, s'il te plaît, qu'est-ce qu'elle a et tout. Il la ramène, elle me retire la tomate. Et là, je commence à manger. Ils ont dit, mais c'était que ça. Et en fait, tu vois, genre, je me rends compte que finalement, ça veut dire que mes parents ont quand même appris ça dès le début. Et après, j'ai commencé à parler français, c'est normal. Mais j'avais mes parents, dès mon plus jeune âge, ils m'ont dit, tu vas parler arabe, etc., etc. Et je le regrette pas. Parce que je vois aujourd'hui des amis qui ont mon âge qui me disent j'aurais tellement aimé que mes parents me l'apprennent. Et il y a aussi ce déni de certains parents qui veulent pas, en gros, qu'on soit associé, on va dire, à l'immigration, je ne sais quoi. Mais en fait, les gars, dans tous les cas, on est des Arabes pour eux. Donc, à ce moment, essayez de garder au moins un minimum de votre identité, tu vois. Et je suis contente puisque eux, ils regrettent de pas parler la langue et me demandent de leur apprendre. Et moi, je me dis, j'ai tellement de chance de l'avoir appris, tu vois, et d'avoir gardé ces racines-là.
Bien sûr, c'est important, ça fait partie de nous, il faut pas oublier,
c'est
en
ça.
Fait.
C'est ça.
Pour moi, les anecdotes que j'ai quand je vais au Maroc, c'est, même quand j'étais ado, des fois, j'ai rencontré d'autres Français, franco-marocains comme moi, mais, ils alignaient pas un mot en marocain ou en arabe, et je trouvais ça surprenant. Moi, je disais pas que je parlais de manière très fluide, mais j'arrive à me débrouiller. Et le fait que les personnes fassent même pas l'effort d'eux.
C'est ça.
Je trouvais ça un peu
après,
dommage.
Ça, c'est les parents, tu vois. Ouais. C'est les parents, et j'avais discuté avec, là, par exemple, j'ai ma petite cousine. C'est pareil, genre, ses parents lui parlent pas arabe, et elle me dit, elle a 15 ans, et elle me dit, j'ai envie d'apprendre, mais ils veulent pas me parler arabe. Pourquoi? Parce que, on est en France. Mais rien ne t'empêche, pourquoi tu peux apprendre l'anglais, tu peux apprendre l'espagnol et tu peux pas apprendre l'arabe? Quel est le problème avec l'arabe?
Bien sûr.
Surtout que l'arabe aujourd'hui, pour moi, c'est une langue qui est hyper importante. Si on parle de l'arabe littéraire. Et c'est un minimum. Et commencer par ton dialecte, c'est déjà une première étape. Donc, j'ai toujours eu cette attache aux racines quand j'étais petite, mais pas sur le plan, on va dire, réellement artistique ou de référence où je me projetais, tu vois. Voilà.
J'avais une question, mais je l'ai perdue. La question, c'était liée un petit peu à tout ce que tu dis depuis tout à l'heure.
Ouais.
Notamment, à la fois ta double culture, mais aussi au fait de pas se sentir parfois intégré ou se sentir jugé parce que tu t'orientes vers un autre univers qui n'est pas forcément l'univers des quartiers. Et inversement, les parents qui acceptent que tu traînes avec leurs enfants parce que tu es différente des autres deux quartiers. Ce qui m'étonne, c'est que visiblement, tu l'as quand même, tu t'en es rendu compte très tôt, ou peut-être même sur le moment. Comment tu fais pour pas réagir d'une certaine façon émotionnellement et te confronter à ça d'une certaine manière?
Alors, première chose, c'est que moi, j'ai un problème avec le concept d'intégration.
Ouais.
J'estime qu'on n'a pas à s'intégrer. Ouais. On va pas demander à des Blancs de s'intégrer dans notre culture à nous, tu vois. Notre culture, là, à ce moment-là, je parle de la culture maghrébine. Pourquoi on devrait s'intégrer? S'intégrer, ça implique que tout ce qu'on cite depuis tout à l'heure, ça fait pas partie de nous. C'est-à-dire que si je décide de dire « je m'intègre parce que je fais de la musique, parce que je vais à la bibliothèque, parce que je vais au cinéma, parce que je vais à des concerts, parce que je danse, parce que je chante », ça implique que, en tant que maghrébine, normalement, je ne suis pas censée faire ça. Donc, le concept d'intégration, moi, je le pars. J'estime juste qu'on est tous des êtres humains individuels avec nos hobbies, nos passions. C'est la même chose. Avec nos passions, avec ce qu'on aime pas, les plats qu'on aime, les plats qu'on n'aime pas. C'est pas parce que je suis maghrébine que je suis obligée d'aimer le couscous. C'est pas parce que je suis italienne que je suis obligée d'aimer les pâtes. Tu vois? Donc, le concept d'intégration, pour moi, il a rien à faire là. Donc, déjà, quand je pars de ce principe-là, quand on me dit, ouais, t'es une arabe pas comme les autres. Tu vois? Et ça, c'est, on me l'a vraiment sorti mot pour mot. Et c'était mon ancienne meilleure pote du lycée. C'était une blanche. Ses parents, ultra racistes. Mon père, il était boucher, il leur offrait des merguez. Il disait, ah, mais si c'est halal, j'en veux pas. Mais Imen, on l'accepte parce qu'elle est éduquée, parce qu'elle est pas comme les autres et tout. Et un jour, quand cette fille m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, je pense que toi et moi, on n'a rien à se dire à partir du moment où tu es d'accord avec ce qu'ils disent. Elle me dit, mais je suis pas d'accord, moi, tu sais que je suis pas raciste, etc., etc. Donc, je lui ai dit, d'accord, mais tu sais que ce que tu es en train de me dire, c'est une forme de racisme. C'est juste internalisé. Je dis, c'est internalisé en toi. T'estimes que tu pourrais pas traîner avec une autre maghrébine si elle n'est pas comme moi. Par contre, ça te dérangerait pas de traîner avec une blanche si elle est comme les maghrébins que t'aimes pas. Tu vois? Et j'ai jamais été dans la confrontation pure. Pour moi, dès lors où on n'a pas de point commun, où on n'est pas fait pour s'entendre, où tu vas avoir des discours qui ne me plaisent pas et que tu refuses de réfléchir, malgré mes explications, tu fais ta vie, je fais la mienne. Tu vois? Et plus tard, cette fille, elle est revenue. Tu vois? Elle est revenue et comme je dis, c'était une forme de racisme internalisé parce que, elle sortait qu'avec des rebeux. Aujourd'hui, elle est paxée avec un blanc.
Ok.
Tu vois, elle sortait qu'avec des rebeux, donc je pense qu'il y avait aussi, tu vois, cette ce truc
du fantasme un peu,
du fantasme, du fétichisme, etc. Ouais. Donc quand c'était des hommes, ça la dérangeait pas parce que c'est là, c'est l'homme viril, c'est l'homme qui donne des ordres, c'est celui qui va te donner une claque si t'es pas content.
Ouais, le cliché quoi.
Le cliché total. Par contre, venant d'une femme, et là je vais dire c'est un terme dur et que on n'est pas censé utiliser, c'est soit la beurette, soit l'arbre pas comme les autres.
Ouais, ok.
Okay. Donc, pour elle, il n'y avait pas d'entre-deux. Soit t'étais une beurette, soit t'étais une arabe pas comme les autres. La beurette, c'est une forme de racisme. C'est du racisme, c'est pur. Parce que, à partir du moment où tu vas décrire une femme, quelle que soit son origine, par un cliché de la maghrébine, c'est du racisme. Et aujourd'hui, elle a fait retour sur tout ça. Elle est paxée avec un blanc, elle a un enfant, etc., machin. Et on en avait discuté et tout. Et tu vois, elle n'a plus du tout cette mentalité. Donc, les gens se déconstruisent progressivement. Et pour moi, il faut laisser le temps aux gens. Parce que, on a un libre arbitre, mais quand tu grandis avec ta famille, etc., t'as tendance à répéter ce qu'ils disent. Et c'est que en grandissant que tu te déconstruis. Donc moi, j'entre pas dans la confrontation avec Mais du coup, j'entre pas dans la confrontation avec ces gens. Tu vois, j'ai aucun intérêt. J'ai ma vie, j'ai mon truc à faire, je le fais. C'est tout ce qui m'importe. Parce que ces gens-là, en fait, s'ils ont aucun impact dans ma vie, je vais pas me prendre la tête. J'ai pas assez d'énergie à donner aux gens qui ne m'en apportent pas et qui ne m'apportent rien. Et c'est ok de dire, si tu m'apportes rien, je te veux pas. C'est ok. Et les gens, ils ont ce problème de dire, ouais, mais moi, je suis pas là pour qu'on m'apporte et tout, machin. Arrête. Stop. Arrête de mentir, tu vois. Ouais. On est tous là pour s'aider mutuellement, tu vois. Moi, je t'apporte, toi, tu m'apportes. Et si au bout d'un moment, tout ce que tu fais, c'est me faire reculer, au revoir, tu vois.
Salam,
c'est tout.
On dit.
Vraiment, salam. C'est tout. Donc, voilà.
Ok. Donc, tu te construis, tu grandis avec une certaine maturité quand même, consciente qu'il y a déjà pas mal de freins extérieurs qui peuvent t'empêcher d'aller là où tu veux aller, même si tu ne sais pas forcément où tu veux aller.
Bah, le premier frein, ça a été mon père. Hein, parce que, comme je t'ai expliqué, de base, je devais aller en S.
Ouais.
J'étais studieuse, j'étais acceptée dans les trois filières. Donc, mon père, il a pris mon truc, il a mis S. Premier trimestre, je crois que c'est le premier trimestre où tu choisis, et deuxième trimestre, c'est la validation totale. Ou c'est deuxième et troisième, je sais plus, bref. Et il m'a mis S, et je lui ai dit, mais je veux pas. Je lui ai dit, je veux aller en L. Il m'a dit, c'est hors de question, qu'est-ce que tu vas faire en L? Et il m'a dit, tu vas devenir médecin, tu vas devenir ingénieur, tu vas faire comme tes cousins. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre de mes cousins, moi, je veux aller en L, je veux travailler les langues, je veux travailler le théâtre, je veux faire de l'art. Et de base, je voulais faire une école d'audiovisuel, tu vois. Je me suis dit, je veux faire un truc dans le genre, tu vois. Et il m'a dit non. Donc moi, je vais toquer à la porte de ma prof principale, qui était ma prof de maths. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me refuser la S, s'il vous plaît? Elle me dit, mais Imen, je ne peux pas, tu as 17 en maths. J'ai dit, bah, faut faire quoi? Elle m'a dit, bah... J'ai dit, ok, deuxième trimestre.
T'es descendu combien, 12?
9. 9 en maths. Science, pareil. Rien à foutre, je rendais rien. Et du coup, ils m'ont refusé la S. Mais ils ont dit, vu qu'on connaît les capacités de base humaine, on lui laisse la ES.
Ah ouais, jusqu'au bout quand même.
Donc mon père me coche la ES, je rentre en ES. Mon père part au Maroc une semaine après. On était dans un lycée de secteur du 93. Vraiment, j'ai toqué à la porte du CPE, j'ai dit je vais aller en L, il m'a dit ok.
Bah, génial.
Je vais en L et je ne l'ai pas dit à mon père. Donc mon père, tu sais, c'est genre il te donne, il te dit ouais tu vas ça et tout, mais en vrai il ne sait même pas ce que tu fais, il sait même pas ce que... Bref, donc j'étais en L et en fait vers la fin d'année, je dis à mon père, ah au fait je suis en L. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, si je voulais pas te tailler en L, c'est parce que moi-même, j'ai fait L. Je dis, ah, mais alors toi? Il m'a dit, ouais, je sais ce que c'est et tout. Moi aussi, je faisais que des langues, je faisais de l'art et tout, machin. Ben, je t'ai dit, il faisait un peu de musique. Il était intéressé par les langues, par l'art et tout. Et en fait, il voulait pas que je fasse comme lui. Parce que lui, il a pas réussi dans cette branche. Il rejette son échec sur moi, tu vois.
Ouais, mais c'est aussi de la une forme de bienveillance, même si elle est pas forcément bien placée, c'est une forme de bienveillance parce qu'ils veulent pas que tu souffres. C'est l'attitude des parents.
Mais je pense que si j'avais fait S ou ES, actuellement, j'en serais pas là. 100%.
C'est sûr.
100%. Mais voilà.
À ce moment donné là, est-ce que tu es fier de toi?
Là ouais. Là en voyant ce que j'ai accompli, je pense pas être au max et il y a encore plein de trucs sur lesquels je suis pas j'estime pas être là bien, tu vois. Il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer et tout, mais on va dire sur la manière dont je progresse, c'est une fierté, tu vois.
Et est-ce que tu te conditionnes pour l'après, justement, par rapport à ces trucs que tu fais pas encore bien?
Ouais. Si, je bosse beaucoup sur moi. Déjà, j'ai commencé à être plus exigeante, pas envers moi, mais envers les autres, parce que je laissais beaucoup passer énormément de choses. Et c'est en créant une société que j'ai compris que tu peux pas, en fait.
Comment ça envers les autres? Par rapport à ce que les autres peuvent t'apporter ou te demandent, c'est ça?
Ou comment ils peuvent me faire reculer ou me mettre dans de mauvaises situations s'ils s'impliquent pas autant que moi et tout. Tu vois, je me suis dit, en fait, il faut avoir un seuil d'exigence envers les autres. Et ce seuil d'exigence, c'est celui que je me donne à moi, tu vois. Donc, pourquoi je suis exigeante envers moi-même et aussi soft envers les autres? Ces gens-là, en fait, à partir du moment où ils travaillent avec moi, faut bien qu'ils donnent autant que moi, tu vois. Et j'avais pas ce seuil d'exigence, et là, je l'ai, et je sais que ça va faire évoluer les points sur lesquels je suis encore un peu fébrile. Okay. Tu vois. Donc, voilà.
Donc, tu te rends compte qu'au fond, tu as ce que tu tolères.
Exactement.
Cool. Ça va pour l'instant?
Ouais, ça va. ça va.
Une fois que tu arrives, tu as ton bac, tu arrives à l'université, tu fais des grandes études, comment ça se passe?
Alors, j'ai fait une école post-bac. En vrai, comme je t'expliquais, quand j'ai fini mes études, je savais pas où aller parce que mes parents, ils voulaient pas que je fasse une école d'audiovisuel. Pour eux, c'était pas un vrai métier, tout ça. J'avais commencé donc déjà à faire un peu de photos, de vidéos, ça me plaisait, tu vois. Et j'avais pas ce côté où j'aimais être face caméra. Donc j'aimais pas me montrer, etc. Je faisais du théâtre, mais c'était de la scène, tu vois. C'était de la scène et j'aimais beaucoup la scène, mais j'aimais pas devoir être face cam ou des choses comme ça. J'aimais créer, surtout créer pour les autres et tout. Donc je voulais faire une école d'audiovisuel, être scénariste ou... Je savais pas encore, mais je voulais faire ça. Et pour mes parents, c'était no way. Je me suis inscrite dans des facs random. J'étais acceptée à Marne-la-Vallée. J'ai dit, écoute-moi bien, maman. Écoute-moi bien, papa.
T'es beaucoup dans la menace, toi, j'ai remarqué.
Oui, j'ai dit, c'est très simple. Là, si je rentre à Marne-la-Vallée, je fais une année sabbatique et je ne retourne pas à l'école. Je dis, Marne-la-Vallée, tu te rends compte, c'est doux par rapport à Bobigny? J'ai dit, qui va faire ça? Je vais passer plus de temps dans les transports qu'à l'école. Et finalement, ma cousine était à l'ISG, Business Finance, et elle m'a dit, ils ont une filière marketing communication. Aujourd'hui, si j'ai une recommandation, allez pas en marketing communication, c'est bouché, y a rien à faire. Voilà, ou alors faites vraiment une grande école, tu vois. Mais les écoles post-bac, pour moi, ça rime à rien. Mais à mon époque, c'était la transition avec vraiment le full digital et tout ça. Donc ça allait. Donc on arrive en juin et je m'inscris dans cette école. Donc c'était vraiment last minute, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, humaine, t'es studieuse. Donc fais tes 5 ans, ça passe vite. Et j'ai eu cette chance, je suis grave sociable, tu vois. Et j'ai eu cette chance de me créer directement mon petit groupe à l'école. Et on a monté un BDE ensemble.
Pourquoi tu parles de chance?
Parce que j'ai vu des gens pas assez bien s'intégrer dans des groupes d'amis. Et je sais que moi, j'ai trouvé des gens qui avaient les mêmes valeurs que moi. Et c'est compliqué. Moi, c'était 2015, quand je suis rentrée en école post-bac, d'avoir les mêmes valeurs et tout. Quand j'entre dans une école de commerce, que je suis une des seules musulmanes, et que ils sont tous en mode after work et tout machin, et que malgré ça, ils m'évincent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je sortais pas forcément avec eux. Je refusais de boire, alors que bah pour eux directement week-end d'intégration, ouais, on va te faire boire et tout. J'ai dit non, ben les gars, bonjour, je suis musulmane, en fait, personne va me faire boire. Et en fait, il y a eu ce truc où directement 3-4 personnes, ils ont dit mais respectez.
Okay.
Tu vois, respecter. Et ces mêmes gens, quand ils faisaient des soirées et tout, ils disaient, ouais, mais le prends pas mal, si on t'invite pas, juste, on sait que tu vas pas venir, tu vois. On fera d'autres trucs ensemble. Ils me proposaient de faire des trucs. Donc, j'ai eu un groupe qui vraiment m'a permis de bien avancer sur les 5 ans. Parce qu'au final, j'ai passé mes 5 ans d'études avec le même groupe dans la même classe.
D'accord.
Et on a fait un B2 ensemble, on a commencé à faire des trucs ensemble et tout. Donc, vraiment, c'est là où j'ai commencé aussi à me développer, moi, de manière créative, puisque je gérais la partie communication, il y avait une partie événementielle. Donc, ouais, il y a eu ces 5 ans-là. Et pendant ces 5 ans, j'ai commencé à me lancer dans la photo et vidéo en freelance.
OK.
C'est arrivé en 2017.
Pourquoi la photo et la vidéo?
Alors.
Dans la continuité de ce que tu faisais à l'école, à la fac?
À l'école, je créais. Tu vois, j'avais mon appareil photo, je faisais des petits trucs et tout, mais j'étais pas professionnelle. Et j'avais une cousine qui était photographe de mariage. Elle est tombée enceinte et elle m'a dit, Imen, je sais que t'es la seule à faire un peu de photos dans l'entourage, j'ai confiance en toi, est-ce que tu veux me remplacer sur mon équipe? Parce que c'était une époque où en gros ça fonctionnait que par équipe et si tu perdais ton coéquipier, tu galérais à avoir des prestations.
Okay.
Donc elle m'a dit, ouais, le temps de ma grossesse, le temps de l'accouchement et tout, est-ce que tu peux travailler avec un tel et tout? J'ai dit ok. Et j'ai commencé à faire et en fait, j'ai commencé à me développer artistiquement, tu vois. Le mec avec qui j'étais, il a commencé à faire un peu n'importe quoi. Quand ma cousine est revenue, je suis passée en vidéo, elle a repris la photo. Et j'ai commencé à vraiment, vraiment me développer en photo vidéo, tu vois. Et c'était que du mariage à cette époque. Et en fait, plus le temps avance, plus je commence à utiliser mon appareil photo pour faire d'autres choses. Je fais de la photo de concert. Je commence à tourner un peu. Je fais encore beaucoup de mariages, hein, mais beaucoup moins qu'avant. Parce que déjà, j'ai d'autres activités, mais j'en fais très rarement.
Tu te rends compte au bout d'un moment que les photos de mariage...
Bah, ça dépend. En fait, c'est peut-être un peu horrible à dire, mais maintenant, je choisis.
C'est pas du tout au contraire, tu rigoles ou quoi?
Ouais, je choisis. Ça veut dire que si c'est un mariage qui esthétiquement me parle, je le fais. Si c'est un mariage qui, je sais, il va être chiant, je dis, oh non, désolé, tu vois.
Parce que t'as beaucoup de gens chiants dans les mariages.
Énormément. Et je suis encore en train de gérer des gens chiants il y a des mariages d'il y a 3 ans, tu vois. Oh. Mais ouais, pour te dire la folie des gens. Mais je commence à choisir, en gros, dès que je vois que le parc, je peux avoir une belle atmosphère. En fait, je cherche l'art maintenant, pas juste faire des photos. Je cherche l'art et ouais, j'ai évolué dans la photo et la vidéo. Et c'est quelque chose qui me plaît et que j'aime toujours autant et que j'essaie de faire au maximum encore aujourd'hui. Donc là, on arrive en 2020, je suis diplômée.
Félicitations.
Merci. Et j'avais commencé un stage dans une agence d'influence sur mon stage de fin d'année. Et je suis restée avec eux au final 1 an et demi. 1 an et demi, et au bout d'un an et demi, en fait, fallait que je prenne ma route, tu vois. Genre, fallait que je prenne ma route, etc. Entre-temps, il y a eu d'autres stages avec d'autres entreprises, hein, mais voilà. Et je rentre chez Google. Finalement, j'ai pas aimé du tout. Parce que c'était pas Google même, c'était genre une boîte qui s'occupait de leur partie Google Atelier Numérique et Google for Startups et tout.
Ouais.
Mais je gérais la partie Google sur Station F et des bureaux qui sont juste en face.
Ouais, ils sont
juste en face. Et j'ai pas aimé du tout, donc je suis partie. Et après, je suis rentrée dans un magazine de mode en Social Media Manager. Ça, j'ai kiffé. Mais le cadre, c'était toujours un problème pour moi.
Parce qu'on t'imposait des choses?
Les horaires,
ouais.
Le CDI, sachant que j'ai toujours été en freelance. Tu vois, quand j'étais dans l'agence d'influence, j'étais en freelance. Donc, je gérais mes horaires. Le PDG avait une manière de manager qui était très bien, tu vois. C'était, tu fais ton taf, tout va bien, tu vois. Et on n'avait pas forcément d'horaire imposé. Enfin, on connaissait nos horaires, mais si t'arrivais une demi-heure en retard, c'était pas dramatique. Là, dans le magazine de mode, j'arrivais un quart d'heure en retard, tout le monde te regardait de travers, tu vois. Il y avait le cadre, il y avait le fait que j'étais pas libre sur certaines choses, mais j'aimais créer, tu vois. Je commençais à créer des contenus, des formats, des machins. Et je sais que ma manager kiffait, mais la personne au-dessus, moins, tu vois. Et donc, je reste 6 mois et je pars. Et là, je me dis, en fait, Simène, réfléchis. Là, ce que j'ai actuellement, Legacy Lead Event, je l'ai ouvert, on va revenir en arrière, ouais. Je l'ai ouvert en 2019,
okay.
En association.
2019. Ok, d'accord. Tu peux pitcher Legacy Event?
Ouais, Legacy Lead Event, c'est un organisme de soirée à thème, pour le moment. Il y a d'autres choses qui arrivent, Inch'Allah. Il y a d'autres choses qui arrivent, mais j'ouvre en 2019, pourquoi? Je suis posée avec ma meilleure amie, on est sur mon lit et tout, et je me suis purée, ce serait trop bien, une soirée avec tous les anciens fans des One Direction, tu vois. Mmh. On est en 2019, ils se sont séparés en 2015. Et là, on se dit, vas-y, mais en vrai, sur Twitter, on avait une certaine notoriété dans la communauté de fans, parce qu'on a monté toute notre fanbase Twitter avec des fans des One Direction à l'époque. Moi, j'ai 11 000, elle avait 7 000, un truc comme ça. Et c'est que des fans des One D. Ça veut dire que les gens ont confiance en nous. Et on décide de profiter de ça. On va louer une salle. J'ouvre une association. Loi 1901 et tout machin. Je vais louer une salle. On balance un compte, une billetterie, machin. 220 personnes. Première soirée One Direction. Et là, je regarde le truc et je me dis, mais putain, c'est ça, en fait. Et là, Covid.
La base. Sinon, c'est trop facile.
C'est trop facile. Covid. 2020, on fait donc la deuxième soirée annuelle One Direction. Là, on est sur un truc où, en mode, on se dit juste, vas-y, on fait des soirées annuelles One Direction. Deuxième soirée annuelle One Direction. 2021, on passe entre les mailles du filet. Mm-hmm. En août 2021, tu vois, c'est quand ça avait un peu réouvert, ouais, et tout. Ouais. Troisième soirée One Direction. Et en mars, on avait aussi fait une soirée Justin Bieber. Et là, on commence à voir le truc prendre, tu vois. Fin d'année, on fait un bal de promo, genre à la... Vraiment à la Netflix, en fait. Je saurais même pas... Tu vois, tu rentres un tapis rouge, un arc avec des bâtons métallisés, ciel étoilé, tout le monde a des robes de fou. C'est que des musiques teen pop, Katy Perry, Ariana Grande, machin et tout, tu vois. C'est vraiment élection du roi et de la reine, kissing booth, machin. Il y avait un boost 360, c'était l'époque où c'était pas encore hyper fame et tout. Ça faisait très, très Met Gala, tu vois. Et là, on se dit, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est ça. 2022.
C'est ça quoi? C'est ce que t'as envie de faire?
C'est ce que je veux faire. Okay. Et c'est ce qui me rend heureuse.
C'est là où tu vibres.
Sauf que là, on voit que le bal de promo, très ouvertement, il nous ramène 9 600 € de CA.
OK.
Je me dis, on est en assaut. Je peux rien faire avec cet argent. Donc, on a tout réinjecté dans l'événement. La salle, 5005. Et après, on prend un photographe, un boost, un machin, un truc. Et je me dis, mais tout cet argent, j'aurais pu en faire des trucs de fou. Donc, je parle à ma DG qui était à cette époque dans l'asso. Je dis, on passe en société. 2022, on passe en société et on fait rentrer une autre personne qui nous aidait beaucoup, qui est aujourd'hui mon associée. La personne qui était avec moi ne peut finalement pas rester et tout. Société, trop d'engagement et tout machin. Ouais. Elle quitte la société. Donc, c'est chiant, les papiers, les machins, les trucs. Et au final, il reste que Inès et moi actuellement, tu vois. Inès, moi et deux autres associés, mais qui sont pas vraiment, voilà. Il reste que nous deux. Et là, toute l'année, on balance événement sur événement, sur événement, sur événement. Et en fait, 2022-2023, ça a été des années de fou pour nous. Et pour moi, c'est là où Legacy a réellement existé. Et en fait, quand je quitte le magazine de mode, en août 2022, je me dis, c'est maintenant ou jamais. La seule raison pour laquelle j'arrive pas à faire exploser Legacy, c'est parce que j'ai trop d'activités, ouais, en fait. J'ai pas le temps de m'investir. Et là, je me dis, je vais m'investir et on voit ce que ça donne. Et en fait, ça donne du bien. Tu vois, ça marche. Donc, de l'air, mais ça marche.
Quand tu dis ça donne du bien, ça veut dire que ça touche beaucoup de monde.
Ça touche tellement de monde.
Il y a de l'argent qui rentre.
Oui.
Toi, tu kiffes. Ton équipe aussi, elle kiffe.
Puis les gens nous font confiance. On a fait un bal de Noël. On était en partenariat avec Universal et Polydor. Tu vois. C'était un truc caritatif. On a fait une tombola. Ils ont fait gagner des vinyles, des trucs collector et tout. C'est ouf. On commence à organiser. Là, on a un partenariat avec le Live Bar dans l'Accor Arena. On fait des after parties. Tu vois. Et en fait, je me dis, tout ça, j'aurais pas pu le faire si je m'étais pas investi. Tout ce qu'il me fallait, c'était du temps.
Et du caractère.
Du caractère. Mais ça, pour le faire comprendre à tes parents, tu leur dis, je vais tout arrêter et je vais faire que ça. Fais leur comprendre. Tu vois, c'est impossible.
Je pense que toi et moi, on sait très bien comment ça fonctionne, les parents.
Il faut leur prouver.
Ouais, mais pas tout de suite. Faut rien dire. Faut faire une fois que c'est fait.
Mais mon père, quand j'ai ouvert Legacy, je lui ai pas dit. En asso.
Ouais.
Parce qu'il me disait, ouais, tu vas jamais réussir. Et tout. Tu vois, ils ont peur, les parents, en fait. Et le bal de promo dont je te parlais, le premier, Il a fait 550 personnes. J'ai des vidéos où tu vois une queue jusqu'au bout de la rue. Et mon père, maintenant, ouais, ma fille, elle organise des événements avec 500 personnes et tout. Et t'es là, oui, bah, tu vois, faut leur montrer, en fait. Et là, Legacy, ma mère, elle vient à toutes les soirées.
Ah ouais, carrément.
Ouais, elle vient toutes les soirées. C'est un truc de fou. Elle vient toutes les soirées, à part quand elle est vraiment fatiguée, fatiguée. Mais au bal de... Là, j'ai fait une soirée Disney Channel. Elle me déguisait en sapin. Ça, j'ai fait une soirée High School Musical, thème Noël et tout. Tu vois, donc ça évolue. C'est des soirées avec 300 personnes, 500 personnes. Là, on a annoncé, on commence à aller un peu partout en France. Donc ça commence à prendre, tu vois. Et je me dis, je veux faire que ça.
Donc aujourd'hui, tu fais que ça.
Et la photo vidéo, parce que j'aime trop ça. Mais ouais, je fais que ça et la photo vidéo.
Après, c'est lié, c'est...
Ouais.
Ok. J'ai une question à te poser.
Ouais.
Mais tu vas avoir besoin du casque.
Ouais.
Je vais te montrer une vidéo qui va te parler parce que c'est toi. En fait, quand je suis parti sur ton Insta, il y a un réel qui m'a bien fait rire et c'est celui-là.
C'est le truc... Attends, est-ce que je peux pré-shot? C'est celui où j'ai dit que je quête les gens? C'est grave ça. J'ai grave pré-shot. J'en étais sûre.
Grave.
2023 arrive.
Ouais.
Ouais, j'en étais... J'ai trop pré-shot.
Exactement. Du coup, je vais partager à tout le monde. Ouais.
2023 arrive et je ne vais faire la paix avec personne. On s'est fâché, on reste fâché. Merci.
Donc là, on est en décembre 2023.
Ouais, 2022 du coup.
Ouais. Donc là maintenant, tout de suite.
Ah, là maintenant, ouais,
décembre 2023, donc il y a un an qui s'est écoulé. Est-ce que tu as tenu ton engagement?
Oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, je m'adressais principalement à des gens que j'avais déjà cut out, tu vois, mais qui essaient forcément de revenir, de se faire pardonner, etc., etc. Il y a qu'une personne avec qui on a réellement une discussion, mais là, on revient sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, c'est... pour moi, tant que tu m'apportes rien et que je ne t'apporte rien, ça sert à rien de déblatérer, ça sert à rien de chercher à se remettre en tous les deux, de parler et tout machin. Mais cette fille-là, en particulier... Je me suis rendu compte à certains moments que j'avais besoin de lui parler à elle, tu vois.
Okay.
Parce que même si c'est pas mon amie la plus proche, même si c'est pas l'amie vers qui je vais me tourner, même si c'est pas la personne que je vois le plus, avec qui j'ai le plus d'affinité et tout, en fait, on a partagé tellement de moments et de sentiments particuliers à certaines situations que quand je sais que c'est celle qui m'a apporté le plus de soutien sur ces sujets-là, que à un moment j'avais besoin juste de lui parler à elle, tu vois. Du coup, je lui ai envoyé un message et elle m'a dit que c'était marrant parce que elle comptait m'en envoyer un le soir même alors que ça faisait genre 3 mois qu'on se parlait pas, voire plus. Non, je suis une folle, ça faisait quasi 1 an qu'on se parlait pas. Ça faisait peut-être 7-8 mois, tu vois, qu'on se parlait pas et en fait, c'était que des quiproquos, tu vois, et je me suis dit je suis quand même assez grande pour pas entrer dans des guerres d'ego. Par contre, sur tout le reste, ouais, genre, ça arrive. Et là, c'est pareil, 2024 arrive, je ne vais faire la paix avec personne. Tu vois, genre, si t'es parti et c'est tout.
Ok. Voilà. On arrive bientôt à la fin.
Ouais.
À chaque fin de podcast, d'échange, je fais un parallèle avec les cultures urbaines, au sens très, très large du terme. Mm-hmm. Là, j'ai envie de te parler de Jim Carrey, qui est un très, très, très grand acteur que tu connais. Et tu sais, aux États-Unis, ils font ce truc où les grandes universités invitent des stars et tout pour qu'elles puissent leur donner de la force, de la motivation, etc. Et là, c'était au MUM Graduation en 2014. La peur sera un joueur dans votre vie, mais vous pouvez choisir à quel point. Vous pouvez passer toute votre vie à imaginer des fantômes et vous inquiéter du futur, mais la seule chose qui existe, c'est ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Les décisions que nous prenons en ce moment même sont basées soit sur l'amour, soit sur la peur. Quand moi je vois toutes les décisions que tu as pu prendre dans ta vie, je me demande est-ce qu'elles ont été basées sur la peur ou sur l'amour.
Je suis pas quelqu'un qui a peur. J'ai toujours suivi mon instinct. Si je crois en quelque chose, je le fais. Tu vois? Et j'ai pas peur des échecs. Donc jamais ça s'est basé sur la peur. Pour moi, c'est basé sur l'amour parce que si j'aime quelque chose, je vais tout faire pour atteindre cette chose-là, tu vois. J'ai pas peur des échecs. Je me suis déjà ramassée, tu vois. Avant d'ouvrir Legacy, j'avais un truc qui s'appelait Fancy Gang Event. Ça a pas marché. J'avais choisi la mauvaise personne. Plein de choses comme ça, tu vois. C'est des échecs. Mais on n'apprend pas sans les échecs. Je pense pas que la vie, elle est faite d'une ligne droite. En plus, moi, j'ai un parcours ultra linéaire. Mmh. Donc, c'est sûr que tôt ou tard, j'allais me casser la gueule, tu vois. Et peut-être que je vais me casser la gueule encore. Mais il faut pas en avoir peur. Il y a des soirées que j'ai dû annuler. J'ai fait des 16 ventes. Je vais faire quoi avec 16 ventes, tu vois? Mais il faut pas avoir peur. Faut jamais avoir peur. Et si tu as peur, en fait, tu vas jamais, jamais, jamais avancer. C'est très simple. Parce que tu as peur, tu vas dire, bon, il y a combien de chances que ça rate? Ben, en fait, même s'il y a 10% de chances que ça réussisse et 90% de chances que ça rate, si ça va pas impacter ta vie de manière trop nuisible, fais-le. Tu vois, fais-le et qui sait sur 10%, moi je compare ça à une maladie, si tu dis il y a 10% de chances que l'opération elle fonctionne mais 90% de chances qu'elle fonctionne pas, mais ça va rien faire si ça fonctionne pas, tu vois.
Ouais.
Bah tu vas la faire. Tu vois, tu vas dire il y a quand même 10% de chances que ça réussisse. Et ben ça marche de la même manière pour les autres, pour tout en fait. Si ça t'impacte pas dans le mal, faut pas avoir peur et faut constamment avancer. Parce que c'est pas en ayant peur que tu vas avancer, en fait. C'est pas en ayant peur que tu vas, même, tu vois, pour les autres et l'image que tu renvoies aux autres, faut tout le temps être optimiste, faut tout le temps donner de la force, etc. Et non, moi, j'ai beaucoup avancé dans la peur quand j'étais petite. Beaucoup.
Ok.
Beaucoup avancé, j'avais peur. Et
à quel niveau? Elle venait de qui? De quoi?
Du foyer.
Ouais.
Toujours, je reviens à ça, j'ai grandi, enfin, tu vois, je peux le dire, j'ai grandi dans un foyer violent, dans la peur, et je pensais qu'en gros, j'étais vouée à faire ça, en fait. Tu vois, qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait pas d'échappatoire et que ça allait être comme ça toute ma vie. Et en fait, un jour, tu te réveilles et tu te dis, mais si je décide de faire autrement aujourd'hui, comment ça va se passer? Et tu vois, j'ai imaginé toutes les possibilités. Si demain, je me retrouve à la rue, et je me rends compte que j'ai créé tellement de liens forts, j'ai tellement grandi, j'ai tellement cherché à faire du mieux que même si demain je me retrouve à la rue, je sais que je pourrais me relever, tu vois. Et il faut juste pas avoir peur. Et le jour où t'arrêtes d'avoir peur, crois-moi que toutes les portes s'ouvrent à toi. À toi de choisir la bonne après. Voilà.
Est-ce que tu t'aimes?
M'aimer, je ne sais pas. Avoir confiance en moi, ouais.
Comment ça, je ne sais pas?
Je pense que s'aimer, c'est... Si aujourd'hui, je devais être avec une personne comme moi, je pourrais pas. Tu vois? Parce, dans le sens où je me trouve très dure, beaucoup trop dure. Tu vois, je suis très, très dure. Et ça, c'est aussi un truc qu'on peut aussi me reprocher, que mes amis me disent, tu vois, mais eux, ils m'aiment comme ça. Mais moi, je sais que je pourrais pas l'apprécier chez d'autres, par exemple, tu vois. Et par contre... J'en suis consciente. Et c'est des choses que je veux faire évoluer. Par contre, j'ai confiance en moi. Et j'ai confiance en ce que je ramène, tu vois. Je sais que c'est pas parce que je suis dure, c'est pas parce que je suis méchante sur certains points, c'est pas parce que je vais faire des grosses erreurs que j'aimerais pas que les autres fassent, que quand je vais avancer quelque chose, ça va rater. Ou je vais me poser des questions, tu vois. J'ai confiance en moi, mais après... M'aimer, c'est encore un grand step, tu vois. Mais après, comme on dit, faut apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, tu vois. Donc, bon. Mais il y a de grandes parties de moi que j'aime bien quand même, tu vois. Juste, il y a toujours des seuils d'évolution.
Bah, je te le souhaite en tout cas.
Merci.
Dernière question pour toi.
Ouais.
Comme l'énigme marron, si tu devais faire le bilan.
Le bilan. Le bilan de quand à quand, de...
Tu la prends comme tu veux, la question.
Si je devais faire le bilan... Pour moi, il manque encore 3 ans avant de faire un bilan.
Ok.
Il manque encore 3 ans avant de faire un bilan et je suis pas assez installée pour pouvoir faire un bilan de là où je suis, puisque j'ai l'impression que je commence à peine. Là, mon bilan actuel, c'est je commence à peine.
Ok.
Tu vois, j'ai à peine commencé à intégrer les choses et à commencer à utiliser les bons outils, que ce soit pour évoluer professionnellement ou personnellement. Tu vois, donc si on a l'occasion de se reparler dans 3 ans, je te fais un bilan.
Check.
Voilà, check.
On fait comme ça. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Cher Smokes.
Cher Smokes, c'est dur
Legacy
quoi,
Legacy Event. Alors,
Parce que moi, je comprends Shermouk.
Non, c'est Shersmouks. Tu vois, je t'expliquais qu'en 2010, il y avait la période One Direction et tout ça, machin. Ouais. Et il y avait une artiste qui a fait X Factor en même temps, qui s'appelait Cher Lloyd. Et j'étais trop fan d'elle. Et en fait, je me suis appelée Cher Smokes parce qu'elle fumait. Et la tendance sur Twitter, pour tout ce qui était fanbase, c'était de mettre le nom de l'artiste plus un truc le correspondant. Okay. Et le truc, c'est que j'ai mis ce arrobase en 2013. Donc là, il a 10 ans. Hein. Il y a des enfants, ils ont même pas cet âge. Il a 10 ans. Et les gens ont commencé progressivement à m'appeler Cher Smokes.
Okay.
J'allais à des concerts, on disait, oh, il y a Cher Smokes. Je t'ai dit, sur Twitter, moi, à l'époque, c'était sur les trucs des fanbase. J'arrivais, des fois, je me cachais, il y a des gens, ils voulaient me taper et tout. Mais ça disait, ouais, il y a Cher Smokes, il y a Cher Smokes. Et en fait, c'est resté comme ça. Et finalement, c'est grave devenu mon surnom. Limite, les gens ne m'appellent pas Imen, ils m'appellent Cher Smokes.
Okay.
Et vraiment, et c'est resté. Et je pense que je pourrais jamais me séparer, c'est mon image.
Très bien.
C'est vraiment mon image. Et deuxième, Legacy Lead Event. Voilà, on fait des soirées High School Musical, Disney Channel, One Direction, Justin Bieber, des balles, des after parties. Carrément, aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Je vais faire une after party M Pokora, tu vois.
Wow. Wow.
Donc, c'est des choses, c'est nouveau, mais t'évolues continuellement, tu vois. Donc,
Eh ben, toutes les personnes qui désirent continuer d'alimenter leur âme d'enfant, c'est le moment d'aller.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Merci à toi, Imen.
Merci.
Ce que je retiens, au même titre que le bonheur des gens n'a pas pour objectif de faire le malheur des autres, sois fier de tes origines et assume-les à 1000%.